Merci et bonjour à tous. Oui, alors finalement, ce que je voudrais un peu développer avec vous, c'est dans quelle mesure on peut arriver à comprendre le travail enseignant en partant de l'idée que le travail enseignant, c'est un travail parmi d'autres. Et que probablement il est organisé, il y a une certaine organisation de l'activité. Cette activité, cette organisation, on peut l'analyser, et c'est un peu ce qu'on va essayer de voir ensemble. Alors, je voudrais tout simplement dire que le fil rouge, effectivement, de mon intervention, ça va être le concept d'organisateur. Bon, qu'est-ce qu'il faut, on peut entendre par là? Est-ce qu'il y a un ou plusieurs organisateurs de l'activité enseignante? Dans quelle mesure ça permet un peu d'éclairer cette activité? Oui, alors, simplement, je voudrais dire que le numéro... auquel Anne-Marie Chartier faisait allusion, le premier, ça a été le résultat d'un gros travail qui s'est fait dans le réseau, un réseau qui s'appelait le réseau Open, et où on s'est effectivement arrêté en se demandant, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut parler d'une organisation de l'activité d'un enseignant? Je voudrais... alors, il faudrait quand même que je présente... Bon, j'ai fait un PowerPoint... Je voudrais aborder avec vous quatre points. Alors un premier point qui sert un peu d'introduction, c'est-à-dire essayer de voir comment on est arrivé à l'analyse du travail. Un deuxième point qui est un peu plus théorique, qui est un peu le cadre théorique auquel je me réfère, la conceptualisation dans l'action et puis le concept d'organisateur. Un troisième point où j'essaierai, alors en m'inspirant beaucoup des travaux qu'on a fait dans Open, mais en essayant de présenter une synthèse qui n'engage que moi, essayer d'indiquer ce qui me paraît être les organisateurs d'un travail enseignant. Et puis je terminerai sur quelques conséquences, hein, parmi bien d'autres, hein, qu'on pourrait peut-être tirer de ça en termes de formation des enseignants. Alors, un double déplacement, et bon, ça me permet de me présenter un peu. Pour moi, ça a d'abord été l'entrée dans l'analyse du travail, ça a été d'abord un déplacement personnel. Bon, après quelques années d'enseignement de la philosophie, parce que je suis agrégé de philosophie, au moins dans ma formation initiale, je me suis lancé, bon, peu de temps, on peut dire à peu près, quelques temps après mai 68, hein, c'était l'époque, dans la formation professionnelle continue, dans l'éducation nationale, où j'ai fait de la formation de formateurs, des interventions en entreprise, et puis progressivement de la recherche, et où j'ai pratiqué ce qu'on appelle, nous, dans ce domaine, l'ingénierie de formation. L'ingénierie de formation, faire des analyses de besoins, de demandes, construire des dispositifs, construire des référentiels, faire des évaluations de dispositifs, etc. Et une chose m'a frappé, dans ce nouveau métier que j'ai appris sur le tas, c'est qu'on s'arrêtait toujours avant l'analyse du travail. On s'intéressait à l'analyse de la demande de formation, etc., mais on s'arrêtait toujours à l'analyse du travail, et c'est la raison pour laquelle, faisant une thèse avec Gérard Vergniaud, donc représentant de la théorie de la conceptualisation dans l'action, qui faisait de la didactique des mathématiques à l'époque. Moi, je suis allé me former également dans le laboratoire de Jacques Leplat, qui était un des très bons, je pense que le représentant de l'analyse du travail aujourd'hui encore en France, bien que maintenant il commence à prendre vraiment beaucoup d'âge, mais il continue à être actif. Et c'est ce qui m'a donné l'idée d'introduire la notion de didactique professionnelle, que je résumerai très simplement, hein, c'est l'analyse du travail en vue de la formation. Donc l'analyse du travail en vue de la formation. Alors la question que je me suis posée, c'est pourquoi on s'arrêtait en ingénierie de la formation, pourquoi on s'arrêtait juste avant l'analyse du travail. Alors, bon, il faut quand même ajouter que certains disaient, on fait une analyse du travail. En particulier, je pense à tout le courant de la construction des référentiels et de la pédagogie par objectif, dont je crois savoir que une retombée importante est arrivée dans les IUFM, sous forme de référentiels. Alors, je vous dirai pas tout le mal que je
pense.
Que si. je tiens des référentiels, mais je voudrais simplement dire ceci, c'est que certes, par exemple, quelqu'un comme Bertrand Schwartz, qui est quand même une figure importante de la formation professionnelle, il a supposé des actes symboliques importants. Quand on est allé le voir pour organiser une formation pour la reconversion des mineurs des bassins lorrains, la première chose qu'il a faite, c'est de descendre dans la mine. Bon, c'était quand même un geste symbolique fort. Mais, en même temps, je dirais, la pédagogie par objectif n'a pas fait, à mon avis, une véritable analyse du travail. Parce que d'une part, on a confondu le travail prescrit et le travail réel. Les référentiels définissent un travail prescrit. Et ils s'intéressent peu, ils peuvent difficilement le faire d'ailleurs, ils s'intéressent peu au travail réel. Et ça, ça a été, je crois, un des points essentiels de l'ergonomie de langue française, qui consiste à bien montrer la différence qu'il y a entre le travail prescrit et le travail réel. Et pour analyser le travail, il ne faut pas simplement regarder la prescription, il faut aller observer le travail effectif. Il y a une deuxième raison sur laquelle je vais peut-être passer un peu vite, c'est que je crois que dans la pédagogie par objectif, on a un tout petit peu confondu découpage et analyse. C'est-à-dire que on a découpé une activité en fonction du but, des sous-buts, etc., sans toujours s'intéresser justement à l'organisation de l'activité. Or, il me semble qu'on peut pas comprendre une activité si on ne va pas jusqu'à la manière dont elle est organisée. Alors voilà, c'est un peu ce premier déplacement, un déplacement personnel qui m'a amené à lire en quelques mots, si vous voulez, un parcours qui a été le mien. Pendant 20 ans, donc, j'ai fait de l'ingénierie de formation dans l'éducation nationale. Et puis ensuite, j'ai fait un peu tardivement une carrière d'enseignant-chercheur, qui maintenant est vraiment vers la fin. Parce que
la carrière, mais pas la recherche.
Pas la recherche, mais un professeur émérite, c'est quelqu'un qui continue à travailler tout en étant en retraite. Quoi. C'est
voilà.
C'est ça.
Heureux.
Alors, il y a un autre déplacement, et là je vais entrer un peu plus dans le vif du sujet. C'est pas le même, mais je crois que c'est le déplacement qui me permet de comprendre comment, avec une approche de didactique des disciplines, on est arrivé progressivement à s'intéresser à l'analyse de l'activité enseignante, à l'analyse du travail enseignant. Alors là, je dirais, je crois que ça vaut la peine de partir de Guy Brousseau, parce que il me semble que Brousseau a produit un véritable renversement fécond, en particulier en décentrant le point de vue de l'approche didactique, en le décentrant des enseignants, des formateurs, pour le centrer sur les apprenants, sur les élèves. Mais il me semble que la théorie des situations de Brousseau va tout à fait dans ce sens-là. C'est-à-dire que, en fait, on apprend par les situations. On apprend par les situations parce que les situations auxquelles les apprenants vont être confrontés leur posent des problèmes, vont mobiliser des ressources, les ressources qu'ils possèdent, vont parfois les amener à recombiner les ressources qu'ils possèdent et parfois même à créer des ressources nouvelles. Et là, on a de l'apprentissage et de l'apprentissage qui se fait dans les situations. Alors, il y a, comme je le mettais sur mon PowerPoint, il y a un point aveugle. Il y a un point aveugle qui est l'activité de l'enseignant. Alors, faut pas exagérer. Hein, on sait bien que Brousseau s'est quand même beaucoup intéressé à l'activité des enseignants et qu'elle fait partie intégrante de son analyse. Hein. Les enseignants ont une fonction de mise en scène. C'est eux qui choisissent et qui mettent en scène les situations. les situations didactiques, et ils ont également une fonction de médiation. Oui, c'est vrai. Il n'empêche que il fallait ce renversement. Je pense que c'est extrêmement important de se centrer sur les élèves et leur apprentissage. Mais du coup, on a en quelque sorte un véritable contraste. C'est-à-dire que dans la théorie, le rôle de l'enseignant, si on suit Rousseau, est quand même relativement modeste et un peu réservé. Alors que dans la pratique, quand on observe le travail réel, on a quand même plutôt l'impression que l'enseignant est un véritable homme orchestre ou femme orchestre et qu'il intervient dans à peu près tous les domaines. Et alors, il me semble qu'on constate aujourd'hui un véritable rééquilibrage de cette position de Rousseau. C'est-à-dire qu'on ne va pas abandonner la centration sur les élèves, mais on va vraisemblablement l'équilibrer. Et alors là, j'ai fait référence à une analyse que fait Bernard Schneuvely, moi, qui me paraît très, très intéressante, en disant, au fond, il faudrait prendre un peu ses distances avec ce qu'il appelle le paradigme Piagetto-Bachelardien ou Bachelardo-Piagetien. C'est-à-dire qu'au fond, on voit bien que pour Piaget, l'hypothèse majeure du constructivisme, c'est que la conceptualisation, ça se transmet pas. On ne transmet pas des concepts, les concepts, ça se construit. Et ça, c'est un sujet qui les construit. Ça, c'est quand même. Et je pense que Rousseau est tout à fait dans cette orientation piagétienne. Et puis il y a ajouté d'ailleurs fort justement une bonne couche de Bachelard, à savoir que dans l'apprentissage, il y a des obstacles épistémologiques qui ne dépendent pas simplement des situations, mais qui dépendent des difficultés intérieures au sujet, et que un des problèmes de l'apprentissage, c'est précisément d'arriver à surmonter ces obstacles épistémologiques. Alors, on a donc un paradigme, Piagetto, Bachelardien ou inversement, qui aboutit à ignorer un peu la dimension de transmission qui continue quand même à être très forte dans les apprentissages. Et il me semble, alors, c'est comme ça que j'explique qu'on est entré progressivement vers une analyse de l'activité enseignante. Il me semble que des auteurs comme Dominique Bucheton, qui présentera tout son cadre théorique, moi je l'évoquerai simplement tout à l'heure, que Gérard Sansévi et Alain Mercier, enfin tout le courant de la didactique comparée, ont redonné une place, ont donné toute sa place à l'activité enseignante pour essayer de dire que... Alors évidemment, un enseignant n'est rien sans des élèves. Sansévi l'explique très très bien en disant, en prenant d'ailleurs la référence au jeu tel que les entend Wittgenstein, en disant, il y a une grammaire, il y a une manière de fonctionner, et une des règles de base de l'enseignement-apprentissage, c'est que l'enseignant gagne quand l'élève gagne. L'enseignant gagne, fait son travail, réussit sa prestation quand l'élève a réussi véritablement un apprentissage, et il ajoute motu proprio, c'est-à-dire c'est pas simplement de la transmission, mais c'est vraiment de la reconstruction. Mais s'il n'y avait pas ce travail de l'enseignant, vraisemblablement on n'irait pas très loin en termes d'apprentissage. Et puis évidemment, Schneuvely a été, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, je pense que Schneuvely a été très sensible à cette dimension de partage entre l'enseignant et l'élève. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur ce déplacement. C'est un déplacement qui est en cours, et c'est à mon avis ce qui permet un peu de comprendre comment, j'ai envie de dire presque assez tardivement, on a commencé à s'intéresser d'une part au travail réel des enseignants et d'autre part à l'analyse de l'organisation de leur activité. Alors maintenant, l'organisation de l'activité, qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Bon, moi je vais simplement vous présenter un peu le cadre théorique dans lequel j'ai fonctionné. Bon, je pense qu'on... Je vais essayer de pas être trop long là-dessus, mais bon, je pense qu'il faut quand même que j'en dise, j'en dise deux mots. Alors, je voudrais d'abord souligner l'apport considérable qu'a été pour moi, entre autres, et pour les gens qui représentent la didactique professionnelle, l'apport de Gérard Vergniaud.
Alors, je dis pour les étrangers qui ne savent pas forcément ni qui sont Brousseau ni Vergniaud, que ce sont des matheux, hein, point de départ. C'est l'enseignement des maths dont il est question.
Il y a des Brésiliens dans la salle.
Je peux me permettre de dire un peu. Vergniaud n'est pas un matheux.
C'est un psycho.
C'est un psychologue.
Il a fait sa thèse avec Piaget.
Et je crois que une des grandes chances de la didactique des maths a été d'être inventée par un ancien instituteur et un psychologue.
Oui. Ah oui.
Je dirais surtout un ancien des CMEA, moi je dirais encore plus qu'un ancien.
Absolument.
Voilà. Brousseau, etc. Bon, on y reviendra sur le problème de l'éducation nouvelle.
Donc, merci Anne-Marie d'avoir rappelé un peu le contexte. Alors, Vergniaud, en fait, moi j'ai fait ma thèse avec Vergniaud, lui-même avait fait sa thèse avec Piaget. Mm-hmm. Et il y a une lignée, il y a une orientation. Et je crois que ce qu'on retire de ce que j'ai retiré du cadre théorique de Gérard Vergniaud, la conceptualisation dans l'action, c'est les trois choses que j'ai indiquées sur mon PowerPoint que je vais essayer de développer. D'abord, c'est l'idée que l'activité humaine est organisée, qu'il y a à l'intérieur de cette activité des éléments organisateurs dont on va essayer de voir ce qu'ils sont. Et je dirais que cette activité humaine est organisée en référence à une classe de situation. Et là, il y a quand même quelque chose qui est... il y a une grosse différence là entre Piaget et Vergniaud. Les invariants opératoires chez Piaget, c'est des invariants très généraux, qui en quelque sorte sont en grande partie indépendants des situations déterminées. Par contre... La différence que souligne Vergniaud, c'est que lui, il réfère ses organisateurs à des situations. Et c'est ça qu'il appelle un schème. En fait, il dit un schème, c'est une organisation invariante de l'activité pour une classe de situations données. Et il ne faut pas oublier que c'est en référence à un ensemble de situations que l'activité est organisée. Ce qui définirait en quelque sorte des métiers. C'est-à-dire que le métier d'enseignant va avoir un type d'organisation qui probablement n'a rien à voir avec d'autres activités et d'autres métiers. Donc c'est en référence à ces situations, et c'est en analysant ces situations qu'on va pouvoir identifier comment les acteurs d'un métier, les représentants d'un métier, organisent eux-mêmes leur activité. J'insiste un petit peu là-dessus, parce que ça veut dire que dans une situation, il y a un certain nombre d'éléments essentiels qu'il est nécessaire de prendre en compte pour que l'action sur cette situation soit efficace. Et c'est des éléments, d'une certaine manière, objectifs. Et le concept de schème permet d'articuler ça avec la représentation de l'acteur. Parce que, justement, le propre de l'acteur, ça va être... d'assimiler ces éléments, de les transformer en ce que moi j'appelle un concept organisateur, sur lequel je vais revenir, et qui vont, c'est des choses qui vont guider l'action. Autrement dit, c'est une double face. Deuxième caractéristique, c'est que cette organisation de l'activité, bon, il y a d'abord un premier couplage, donc schème, donc le sujet et la situation. Il y a un deuxième couplage, c'est le couplage entre invariance et adaptation. Pour comprendre l'activité humaine, il faut admettre qu'il y a une part en elle d'invariance et qu'il y a une part en elle d'adaptabilité aux situations. Si avec que de l'adaptabilité, on fonctionnerait comme des girouettes. Alors, je me rappelle toujours la fameuse expression d'Edgar Faure, hein, parce qu'on l'a beaucoup taxé dans ses opinions politiques de girouette. Il disait, c'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Oui, bien sûr. Mais il n'empêche que, sans invariance, on a une espèce de... Il faudrait qu'on réapprenne tout à tout moment. Mais en même temps, sans adaptabilité, on aurait un comportement complètement stéréotypé, qui se reproduirait totalement à l'identique. Et on peut en voir un peu une image dans ce qu'on a appelé l'organisation taylorienne du travail. Le grand moment de l'organisation taylorienne du travail, ça a été le moment où les exécutants, on cherchait à réduire les exécutants à des activités, justement, à une organisation de l'activité complètement stéréotypée. Et je crois que le concept de CHEM permet justement de comprendre comment on peut articuler invariance et adaptabilité. Alors, comment ça? Eh bien, je reprends une formule de Vergniaud, parce que, moi, elle me paraît très claire. Il dit, c'est pas l'activité qui est invariante, c'est son organisation. L'activité, elle est toujours adaptée. Prenez l'exemple du geste d'un sportif. Je pense que c'est un très bon exemple. Un sportif s'entraîne en permanence à faire le même geste. Le coup de droit au tennis ou un amorti au foot, etc. Bon, si vous voulez, il va s'entraîner, répéter, et pourtant, chaque geste du sportif est un geste unique et qui s'adapte aux circonstances. On a à la fois quelque chose qui relève d'une invariance, parce qu'autrement on n'aurait pas d'organisation du geste, et en même temps, on a en permanence une adaptabilité aux circonstances et au côté un peu événementiel de la vie. Alors, je crois que c'est cette articulation, ce deuxième couplage entre invariance et adaptabilité qui permet de comprendre que postuler que l'activité humaine est organisée, c'est postuler aussi qu'elle est analysable, au moins jusqu'à un certain point. En repérant justement les parties invariantes, on peut essayer de voir comment elle est organisée. Elle est analysable, elle est reproductible, mais je dis bien quand même jusqu'à un certain point, parce que bon, probablement on va le voir, on peut le voir avec l'activité des enseignants, il y a une telle variabilité que bon, il y a quand même une part qui est au-delà de l'invariance. Il y a un troisième élément, c'est que qu'on trouve chez Vergniaud, et qui est très important, c'est les organisateurs de l'activité sont de nature conceptuelle. Voilà. Vergniaud avait bien, il a toujours eu un peu le sens de la formule, et il a intitulé un de ses articles « Au fond de l'action, la conceptualisation ». Voilà. Alors, ça nous permet, moi ça me permet de mettre le doigt sur le contresens qu'on fait généralement quand on parle de conceptualisation. Nous avons une manière de penser... Bon, elle est ancrée en nous, hein. Je l'ai retrouvée, moi, à la fois dans les manuels de philosophie, quand j'enseignais la philosophie. On l'a retrouvée aussi, on la retrouve dans certaines distinctions qu'on trouve dans les bouquins de psycho. On distingue toujours la connaissance et l'action. Et la connaissance, c'est-à-dire la conceptualisation, les concepts, etc. Et puis de l'autre côté, l'action, et l'action, c'est autre chose. Eh bien, au fond... la théorie de Vergniaud consiste un peu à brouiller ou à remettre en cause cette distinction entre la connaissance et l'action. Avec cette idée qu'il a trouvée chez Piaget, à savoir que la manière que les humains ont inventé pour s'adapter au réel, c'est la connaissance. La connaissance, pour Piaget, c'est d'abord une adaptation. Et c'est la raison pour laquelle Vergniaud pense qu'il y a toujours deux aspects dans la connaissance, un aspect opératoire et un aspect qu'il appelle prédicatif. Je ne vais pas développer les termes, il les a soigneusement choisis, mais peu importe ici. Autrement dit, si vous voulez, la connaissance, c'est pas simplement la construction d'un savoir théorique. La connaissance, c'est aussi ce qui permet très souvent de guider l'action. Et au fond, l'idée que moi j'ai empruntée à Vergniaud, c'est de dire les organisateurs de l'activité, du travail, sont de nature conceptuelle. Ce sont, comme je les appelle, des concepts organisateurs. Alors, si vous voulez, bon, ça c'est la manière dont j'ai entendu, dont j'ai cherché à assimiler ce cadre théorique de Vergniaud dans une perspective d'analyse du travail et de didactique professionnelle. Un concept organisateur, sa principale fonction, c'est d'orienter l'activité en permettant un diagnostic de situation. Je veux dire par là que, en particulier dans le travail, dans le travail moderne, dans le travail tel qu'il se développe aujourd'hui, le diagnostic de situation est devenu l'élément essentiel de la compétence. Être compétent, je crois, on peut le dire, en particulier dans toutes les activités complexes, c'est pas sortir toujours le même mode opératoire, c'est être capable d'ajuster l'organisation de son activité par rapport au diagnostic qu'on a fait de la situation. Et ça, c'est une fonction opératoire de la connaissance. Et je crois que les concepts organisateurs, ils servent à ça. Ils servent à faire un diagnostic de situation et donc un ajustement de l'organisation de l'activité. Alors, Anne-Marie mentionnait tout à l'heure, moi, il m'est arrivé dans un premier temps d'avoir de parler de concepts pragmatiques. Et ça n'est que dans un deuxième temps que j'ai fait la différence entre concept pragmatique et concept organisateur. Mm-hmm. Pourquoi ? C'est tout simple. C'est parce que je me suis rendu compte que certains concepts organisateurs avaient une origine pragmatique, c'est-à-dire qu'ils avaient été construits dans l'action. Mm-hmm. En particulier, vous avez tout ce qui s'appelle l'apprentissage sur le tas, où là, les gens vraiment construisent des concepts, ont une véritable activité de conceptualisation, mais ils ne les définissent pas, ils n'en font pas une théorie, ils en font simplement un guide pour leur activité. Donc, c'est ça que j'appelais des concepts pragmatiques. Mais seulement, je me suis rendu compte que, dans un certain nombre de cas, c'était pas des concepts pragmatiques qui orientaient et guidaient l'action, mais c'était des concepts scientifiques. Oui, mais des concepts scientifiques pragmatisés. Oui. C'est-à-dire que les concepts scientifiques vous donnent... Jean-François Richard a eu une bonne distinction que, finalement, moi, j'ai retrouvée d'une manière un peu différente. Il fait la différence entre logique de fonctionnement et logique de pilotage. En fait, si vous voulez, la forme théorique des concepts sert à comprendre comment une situation fonctionne. La forme opératoire des concepts consiste à comprendre comment une formation se conduit. D'un côté, vous avez une logique de fonctionnement, on comprend comment ça fonctionne. De l'autre côté, on a une logique de pilotage ou de conduite, on essaie de savoir comment il faut conduire. J'avais prévu de le dire un peu plus tard, mais je peux le dire maintenant. Moi, l'auteur qui m'a beaucoup éclairé sur cette question-là, c'est un Russe, il s'appelle Oshanin. Et alors je crois que c'est... Bon, il y a un exemple, bon, que je cite tout le temps, moi, c'est... parce que je crois que ça a été quand même l'exemple princeps sur lequel a fonctionné Oshanin. Il a observé des médecins spécialistes, des chirurgiens spécialistes de la thyroïde. Et il a comparé ce qu'ils faisaient à des médecins débutants, des jeunes médecins qui sortaient de l'université de médecine. Il leur a demandé de représenter des thyroïdes malades, de mouler, dessiner, enfin peu importe, on va dire dessiner. Et quand il observe les deux résultats, il s'aperçoit que les débutants vous dessine le Larousse médical russe, parce que bon, moi, mais l'organe tel qu'il est, avec des proportions bien bien conservées, alors que les spécialistes dessinent un objet tout déformé, avec des parties qui sont hypertrophiées et des parties qui ont quasiment disparu. Et en analysant ces dessins déformés, Oshanin se rend compte qu'ils ont donné à voir leur démarche de diagnostic. C'est-à-dire que ce qui pour eux a du sens, ce qui est important, ils l'ont hypertrophié, et par contre, ce qui n'a pas de sens pour le diagnostic, ils l'ont pratiquement fait disparaître. C'est ce qu'on a appelé, moi, la différence que je fais entre un modèle cognitif et un modèle opératif. Un modèle cognitif répond à la question « comment ça fonctionne ?» Un modèle opératif répond à la question « comment on peut agir dessus ?» Soit pour le conduire, soit pour le concevoir, soit etc. Et ça, c'est vraiment ça la notion de concept organisateur. Un concept organisateur fait partie de la représentation fonctionnelle qu'un acteur s'est construite pour orienter et guider son action. Alors, ils peuvent avoir des origines diverses. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait maintenant la différence entre concept pragmatique et concept organisateur. C'est une question d'origine. Vous avez pour guider l'action des concepts qui trouvent leur origine dans l'action elle-même. Et puis vous avez des concepts qui trouvent leur origine dans un savoir scientifique et technique qui a été pragmatisé. Je ne vais pas vous raconter comment des jeunes ingénieurs de centrales nucléaires arrivent à pragmatiser leurs connaissances, mais j'aime autant vous dire qu'on peut les suivre à la trace et s'apercevoir que c'est un vrai travail de conceptualisation. Alors ça veut dire qu'un concept organisateur, il a deux faces. Il a une face objective, et là je reviens un petit peu à la première distinction de Vergniaud, le couplage schème-situation. Il est référé à certaines dimensions de la situation, c'est ce que j'ai appelé la structure conceptuelle d'une situation. Et il a une face subjective, il fait partie de la représentation, ou ce que j'appelle, moi, en hommage à O'Shannon, le modèle opératif du sujet. C'est-à-dire la manière dont un sujet se représente la situation en vue d'agir dessus. Bon, je ne vais pas m'attarder, on n'a quand même pas beaucoup de temps, il faut quand même. Je ne vais pas trop m'attarder sur l'apport de l'ergonomie, mais je voudrais simplement signaler, O'Shannon, je viens d'en parler, je voudrais signaler à propos de Jacques Leplat. Un point très intéressant qui va me permettre ensuite de voir comment on a été obligé de faire un certain nombre de pas de côté. C'est ce que j'appelle le paradigme de Leplat. Le paradigme de Leplat, c'est tout simplement, et là je crois que tous les textes de Leplat, tous ses ouvrages reviennent toujours là-dessus.
Faut dire aussi qui est un petit peu Leplat pour les gens qui savent pas du tout.
Est-ce que je peux situer Leplat ?
Le situer, voilà, un petit peu.
Alors Leplat est un. Il a dirigé pendant très longtemps un laboratoire de psychologie du travail à l'école pratique des hautes études. Sa carrière de jeune chercheur à l'AFPA.
Voilà. Ouais.
Ensuite, il a pris la direction du laboratoire d'analyse du travail, de psychologie du travail de l'école pratique des hautes études. C'est un monsieur qui, je crois, a 87 ans, qui continue à être actif. Il continue, il a toujours un petit morceau de bureau, il reçoit les gens en entretien. Et je crois qu'on peut dire que c'est le représentant par excellence de l'analyse du travail en psychologie et en ergonomie. Alors je ne vais pas entrer dans les querelles, parce que vous savez, entre psychologie du travail, psychologie ergonomique, ergonomie cognitive, les chercheurs vont indiquer qu'il y a des différences, hein, c'est sûr.
Énorme.
Simplement, si vous voulez, Leplat est le représentant principal de l'analyse du travail. Vous savez que l'ergonomie est arrivée en France dans les années 1950.
Oui.
Et avec deux personnages importants, il y a je pense c'est pas Montmolin, non. Maurice de Montmolin a été aussi quelqu'un d'important, mais Alain Wiesner, qui était vraiment l'ergonomie proprement dite, et Jacques Leplat, plutôt psychologie du travail. Ça permet de. Alors, moi, si vous voulez, je suis allé dans le laboratoire de Leplat et je me suis formé au concept et aux méthodes de l'analyse du travail de psychologie ergonomique. Et le principe de base, ce que j'appelle le paradigme de Leplat, il est le suivant. Quand on veut faire une analyse du travail, Il faut commencer par faire une analyse de la tâche prescrite, et il faut ensuite faire une analyse de l'activité, c'est-à-dire du travail réel. On retrouve là la distinction décisive qui a été vraiment l'apport de l'ergonomie francophone, la différence entre le travail prescrit et le travail réel. Le plat va un peu plus loin et il indique une dimension méthodologique en disant, si vous voulez faire une analyse du travail, d'abord il faut commencer par l'analyse de la tâche. Donc commencer par faire une analyse objective. Quels sont les éléments, moi ce que j'ai appelé ensuite la structure conceptuelle de la situation, c'est-à-dire quels sont les éléments objectifs de la situation qu'il faut absolument prendre en compte pour que l'action soit efficace. Faire une analyse de la tâche. Seulement, le but de l'analyse du travail, c'est pas l'analyse de la tâche. L'analyse de la tâche n'est que l'introduction pour faire une analyse de l'activité, c'est-à-dire du travail réel. Et le plan nous dit finalement, l'analyse de la tâche va servir en quelque sorte de référentiel pour entrer dans l'analyse de l'activité.
Alors plus. Ça veut dire que quand on lit le mot tâche, il faut toujours comprendre tâche prescrite.
Alors.
Eh ben, voilà.
Bon, elle m'oblige à des distinctions que je voulais pas trop.
On a besoin,
dire, mais
on
quand
a
même.
Besoin.
Alors, si, c'est important.
On a besoin, oui.
C'est-à-dire que la première formulation, ça a été effectivement d'opposer la tâche prescrite au travail réel.
Au travail réel.
Bon. On s'est aperçu ensuite, et ça c'est grâce à un auteur qui s'appelle Pierre Abardel, on s'est aperçu ensuite qu'il était important de distinguer la tâche et la prescription. La prescription, c'est ce que... on est quand même... C'est des distinctions qui sont nées dans un contexte taylorien d'organisation du travail. C'est-à-dire que dans les entreprises, il y avait un bureau des méthodes qui indiquait, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut exécuter la tâche qui vous est donnée. C'était ça, la tâche prescrite. Vous avez une tâche à réaliser. Alors, la tâche, comment on la définit? Il y a un autre russe qui l'a défini. Il dit, c'est un but dans des conditions déterminées. La tâche est définie par un but objectif, conduire un train, conduire une machine, conduire une classe ou réparer, dépanner, etc. Bon, c'est la tâche dans des conditions déterminées. Et ça, on est dans ce qu'on pourrait appeler la tâche dans son objectivité. Et puis la tâche dans son objectivité, elle est pensée par des prescripteurs, bureaux des méthodes, des ingénieurs, des techniciens, qui disent voilà comment vous allez être obligé de faire. Et ça, c'est la prescription. Mmh. Et on a été amené à faire la différence pour des raisons que je ne vais pas trop développer,
oui,
parce que là, on retrouverait vraiment des débats très importants en ergonomie, mais on va les retrouver d'une certaine manière un peu plus loin. Et je reviens donc à ce que dit le plat au fond. Il dit, pour faire une analyse de l'activité, comment faire ? Eh bien, regardez d'abord la tâche prescrite, c'est-à-dire ce que le sujet doit faire. Ensuite, il appelle la tâche redéfinie, c'est-à-dire ce que le sujet ou l'acteur a compris de ce qu'il doit faire. Et enfin, la tâche effective, c'est-à-dire ce que le sujet fait
réellement.
Effectivement.
Voilà, merci.
Et au fond, l'idée de Leplat, c'est de dire, en observant des écarts et en essayant de comprendre ces écarts entre tâche prescrite, tâche redéfinie, tâche effective, eh bien, on peut commencer à comprendre l'organisation de l'activité. Voilà, le paradigme de Leplat. Alors, ça a posé plein de problèmes.
Oui.
Parce que, comment dire ? Voilà, c'est les questions que pose l'analyse du travail en termes d'organisateur. Tant qu'on est dans une organisation du travail très taylorisée, eh bien, cette distinction... commencer par l'analyse de la tâche et puis ensuite arriver progressivement jusqu'à l'analyse de l'activité, ça va très bien. Ça va très bien. Une première difficulté, un premier pas de côté a été fait quand, toujours dans le contexte des chercheurs en ergonomie, on s'est intéressé à ce qu'on a appelé des environnements dynamiques. Alors, les environnements dynamiques, c'est le pilotage d'un avion, que ce soit un avion militaire ou un avion civil, la conduite d'une centrale nucléaire. Il y a eu aussi beaucoup de travaux qui ont été faits par Janine Rogalski sur la gestion de feux de forêt.
Les pompiers, voilà.
Les pompiers.
Comme on a vu ce matin. Hein.
Comment on peut gérer un feu de forêt? Alors, vous prenez. Puis alors après, dans l'agriculture, on a trouvé qu'il y avait plein de situations dynamiques. Ouais. Et qu'est-ce qui caractérise une situation dynamique? Eh ben, c'est qu'elle a sa dynamique propre, c'est-à-dire qu'elle évolue indépendamment de l'action des acteurs. Un feu de forêt, y a les pompiers, oui, mais il y a d'abord la dynamique même du feu de forêt. Et du coup, ça change complètement l'organisation de l'activité, parce qu'il s'agit plus simplement de savoir quoi faire. Il s'agit surtout de savoir le faire au bon moment. Alors je dis ça parce que Janine Rogalski, qui a beaucoup travaillé justement avec les sapeurs-pompiers, a fait depuis quelques années, en relation avec Aline Robert, un travail sur où elle a analysé l'activité d'un enseignant avec ce paradigme des environnements dynamiques. Mm-hmm. C'est-à-dire, prenons la classe comme une entité, hein. Indépendamment, si vous voulez, de chacun des élèves qui sont présents dans la classe. On sait que c'est une des grosses difficultés de l'analyse du travail enseignant, c'est d'arriver à articuler, à combiner à la fois la gestion d'un collectif, la gestion d'une entité, et en même temps les interactions existant avec chacun des élèves. Mais l'idée de Rogalski, c'est de dire, si quand on prend la classe comme une entité, on s'aperçoit que c'est un environnement dynamique. Alors, qu'est-ce qui caractérise l'environnement dynamique, très rapidement? D'une part, toutes les situations sont singulières. Mmh. Alors, bien sûr que les autres aussi, mais je dirais, avec un environnement dynamique, chaque fois, même quand on reproduit, quand on recommence, on va se retrouver devant une situation qui est quand même nouvelle et singulière. Et puis surtout, l'importance considérable que joue le temps. Parce qu'il faut, pour maîtriser une situation dynamique, il faut non seulement savoir faire les bonnes actions, mais surtout savoir les faire au bon moment. Donc une question d'opportunité. Voilà, ça a été un premier pas de côté, qui d'ailleurs, alors je sais pas si, vous voyez, c'est un peu le sens de mon argumentation, c'est de dire chacun des pas de côté nous a obligés à reconfigurer le paradigme de Leplat. Mmh. Parce que on voit bien qu'avec un environnement dynamique, il suffit pas de connaître la tâche pour comprendre l'activité. On voit bien qu'il va falloir faire une analyse spécifique de l'activité des acteurs. Alors c'est encore plus net avec le deuxième pas de côté, ces tâches et activités discrétionnaires. Alors ça, c'est un travail moi que j'ai emprunté beaucoup, j'ai beaucoup emprunté à Claude Vallot. Alors Claude Vallot, c'est un ergonome qui a la particularité d'un psychologue qui travaille pour l'armée de l'air française et dont la spécialité c'est l'analyse de l'activité des pilotes de chasse. Alors vous allez me dire en quoi ça peut éclairer l'activité d'un enseignant. Je crois que oui.
Ah oui.
Parce que, d'abord, il y a une première chose, c'est que Vallot, à la suite de magie, d'un chercheur italien, nous dit, il y a les tâches tayloriennes et il y a les tâches discrétionnaires. Alors, c'est quoi? Les tâches tayloriennes, dans une tâche tayloriennes, le but et le mode opératoire sont fixés par la prescription. Donc, on vous dit ce qu'il faut faire et on vous dit comment le faire. Autant qu'on peut. Dans une tâche discrétionnaire, le but est fixé par le prescripteur. Il faut piloter un avion de chasse et réaliser telle mission. Mais la manière, la modalité, autrement dit l'organisation de l'activité, est laissée à la discrétion, discrétion de chacun des acteurs. Parce qu'on considère qu'ils sont suffisamment compétents pour trouver la bonne modalité qui va leur permettre de réaliser la chose.
La question des méthodes de lecture, dans le grand débat il y a 2 ans, c'était exactement ça le problème. Voilà.
Bon. Alors, donc, c'est une activité discrétionnaire. Alors, Valo, du coup, a été amené à modifier un peu. Bon, il a été formé par Jacques Leplat aussi. Mm-hmm. Hein, bon, il y en a beaucoup qui l'ont. Mais il a modifié un petit peu, si vous voulez, le jeu entre analyse de la tâche et analyse de l'activité. Alors, il nous dit, le vol d'un pilote de chasse, alors vous savez, c'est généralement, ils s'entraînent pour des missions qui consistent à partir à relativement haute altitude. Et puis, quand ils arrivent en territoire ennemi, eh ben, ils se mettent à voler à 10 mètres du sol. Alors, il faut qu'ils évitent, si possible, les radars, mais les montagnes aussi. Mm-hmm. Hein. Qu'ils arrivent sur l'objectif au bon moment. Il faut qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire sur l'objectif et il faut qu'ils reviennent. Alors, toujours en rase-motte. Alors, Valo nous dit, au fond, il n'y a pas simplement la tâche et l'activité. Il y a quatre choses. Il y a, premièrement, le vol technique idéal. Celui que personne ne fait. Il y a deuxièmement le vol qu'on a programmé, parce que là, dans ces cas-là, pour une activité discrétionnaire, il y a un grand moment de préparation, hein, qu'on retrouvera chez les enseignants, mais qu'on retrouve chez les sportifs, etc. Bon. Et alors, le deuxième élément, c'est le vol préparé, le vol programmé. C'est celui que personne ne suit totalement. Il y a troisièmement le vol effectif, et puis il y a quatrièmement, et moi c'est ça qui m'avait le plus intéressé, il y a ce qu'il appelle le vol redouté. Le vol redouté, c'est celui qu'il faut surtout éviter parce qu'il permet de perdre l'objectif en route. Par exemple, à force d'essayer d'éviter les radars, les montagnes et autre chose, on peut très bien manquer l'objectif. Alors, voilà, donc, vous voyez, on a quelque chose de beaucoup plus compliqué. On a quatre éléments. Le vol technique idéal, bon, ça, c'était un peu comme la tâche. Le vol programmé, c'est-à-dire qu'on a un moment de préparation. Le vol effectué, et puis le vol redouté. Je m'étais amusé, bon, je peux pas m'empêcher de le mentionner. J'avais trouvé l'analyse de Valo très intéressante, et j'ai fait un truc, une fois pour mes étudiants, j'ai fait un petit papier qui s'appelait « Du cours magistral considéré comme un vol à haut risque et à basse altitude ». Et bon, il voulait que je le publie.
Mais il faut le publier, bon, parce que moi, ce que j'ai eu en note m'a beaucoup... plu, je m'en sers.
Alors, c'est sûr que quand vous prenez un cours magistral, vous avez les quatre choses. Hein. Mm-hmm. Vous avez le cours magistral idéal, celui que personne n'a jamais fait. Vous avez le cours qu'on a préparé et qu'on suit plus ou moins bien. Vous avez le cours effectué et puis surtout le cours redouté, c'est-à-dire celui où à la fin, on s'aperçoit que ce qu'on devait faire, on ne l'a pas fait. Et alors, je reviens maintenant à Valo. Valo en tire deux choses de ce truc-là, et qui me paraissent très importantes. La première, c'est qu'il dit, dans ces cas-là, pour une tâche discrétionnaire, l'organisation de l'activité, c'est une gestion par enveloppe. Alors, c'est quoi l'enveloppe ? Eh bien, c'est l'espace qui existe entre ce qu'on a préparé et ce qu'on a redouté, ou ce qu'on redoute. C'est-à-dire, entre l'activité préparée et l'activité redoutée, il y a toute une enveloppe. Et justement, le problème de l'organisation de l'activité, ça va être de se situer dans cette enveloppe. Mais ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il y a une infinité de manières de remplir la mission, l'objectif qu'on doit faire. Et de ce point de vue-là, vous voyez, ça donne quand même, ça élargit beaucoup le paradigme de Leplat. Parce que ça veut dire qu'il va falloir, pour faire l'analyse de l'activité, analyser les stratégies mobilisé par les gens, en faisant l'hypothèse que pour une même tâche, à peu près un même niveau de compétence, on peut avoir des manières très différentes de faire. Et ça, je pense que c'est un point extrêmement intéressant. Moi, je pense que ça vaudrait la peine, mis à part le côté un peu humoristique que j'avais pris sur le cours magistral, en essayant de m'observer moi-même, ce serait intéressant de faire une analyse de l'activité des enseignants avec ce paradigme-là. Mmh. J'ajoute un tout petit point aussi sur ce truc de Valo. Dans une gestion de l'activité par enveloppe, il faut réussir à combiner la précision et l'imprécision. Il y a des moments où il faut être précis. Par exemple, quand on fait un cours, il y a des définitions à donner, faut peut-être pas que ça change tout le temps, quoi. Hein. Et il y a des moments où il faut, au contraire, la compétence, c'est d'être imprécis. C'est-à-dire de laisser suffisamment de latitude pour que, alors là on va retrouver l'activité des enseignants, pour que précisément se mette en place une véritable co-activité. Alors ça m'amène à aborder le... Il me reste combien de temps ? Un petit quart d'heure ?
Oui, hein ? Oui.
À peu près, peut-être un...
Bon. Un petit quart d'heure.
Hein. Bon, je vais essayer d'aller assez vite là. C'est la prise en compte de l'interactivité. Alors, bon, c'est clair que, mais là aussi, on a quand même maintenant des analyses qui sont bien faites en termes de psychologie du travail, de didactique professionnelle. Beaucoup d'activités humaines sont des co-activités, c'est-à-dire le travail d'un humain avec et sur un autre humain. Alors que ce soit un commerçant avec un client, que ce soit un médecin avec un malade, que ce soit un enseignant avec ses élèves, on a affaire à des co-activités. Et là, je cite Patrick Maillat, qui a été un de mes élèves, et maintenant qui est professeur et qui fait beaucoup de didactique professionnelle. Il s'est vraiment beaucoup spécialisé dans cette analyse-là, et en particulier, il a fait une analyse... de la manière dont des réceptionnaires de garage accueillaient les clients de garage automobile. Et alors, bon, il arrive à montrer deux choses. D'une part, bon, quelque chose que je ne vais pas développer, à savoir que souvent ces réceptionnaires, c'était des bons techniciens. Et là, ils changent d'un seul coup de métier parce que ils sont en relation avec des clients. Et ils n'ont pas simplement une compétence technique à poursuivre et à développer, mais ils ont également une compétence de communication, arriver à faire une interaction sous forme d'échange. Et alors, la deuxième chose, et c'est là-dessus que je voudrais mettre l'accent, c'est qu'on s'est rendu compte dans ces cas-là que l'objet de la coactivité, il y a bien un objet commun, la voiture. Mais cet objet, il a deux statuts épistémologiques, si je peux dire. Pour le réceptionnaire, la voiture, c'est un véhicule, c'est-à-dire un objet technique. Et pour l'usager, ben, la voiture, c'est un objet d'usage, c'est sa voiture. Et il faut dire que les connaissances que l'un et l'autre ont de ce même objet ne sont pas du tout les mêmes. Et qu'un des gros problèmes de l'interaction, justement, ça va être de permettre un échange des différentes connaissances que les gens ont. Eh bien, je crois que là encore, on voit apparaître, alors je ne vais pas trop le développer parce qu'autrement je vais sortir de l'épure, mais on voit comment le paradigme de Le Plat est encore une nouvelle fois élargi. Ce qui veut dire que, in fine, c'est un peu ça que je voulais montrer, c'est qu'en partant de la notion d'organisateur, référé à une situation, quand on a des situations statiques, je pense que le paradigme de Le Plat fonctionne bien, on commence par la tâche, on poursuit par l'activité. Et puis, vous avez vu que, avec les environnements dynamiques, avec les activités discrétionnaires, avec des situations de coactivité, on voit apparaître un écart de plus en plus important entre l'analyse de la tâche et l'analyse de l'activité. Mmh. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut supprimer l'analyse de la tâche, mais ça veut dire que désormais, et ça va être le gros problème de l'analyse de l'activité enseignante, c'est il faut se centrer principalement sur l'analyse de l'activité. Bon, j'arrête là un petit peu la partie un peu de cadre théorique que je voudrais présenter. Alors là, je vais...
Sur l'enseignement.
Hein, je vais me livrer à quelque chose qui est un peu redoutable. C'est-à-dire en essayant de dire, ben voilà, là où j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que je trouverais comme organisateur de l'activité enseignante. Alors, je me suis beaucoup inspiré du travail qui a été fait dans le réseau Open. Mais, il faut quand même bien dire que la synthèse que je propose n'engage que moi.
Et pas strict.
Est une synthèse personnelle et n'engage que moi. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment un objet qui peut être un objet de discussion, qui sera un objet de discussion, et c'est une première esquisse. Alors, j'aurais envie de dire que ce qui caractérise l'activité enseignante, eh ben, c'est qu'elle est d'abord très complexe. Alors, on retrouve un peu tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire, on a un environnement dynamique, on a une activité discrétionnaire, on a, alors, essentiel, une co-activité, une interactivité, et j'ajouterais même, bon, c'est un petit clin d'œil, là, mais je l'évoque un tout petit peu, mais je laisserai le soin à l'auteur de le développer, on a une dimension également intersubjective. Et je pensais à Isabelle Vinatier, qui a, à ma connaissance, a été le principal auteur là qui a développé justement l'analyse de l'activité dans cette perspective-là. Alors, j'ai envie de dire que je vois trois niveaux d'organisation de l'activité. Et d'une certaine manière, si vous voulez, c'est des niveaux concentriques. C'est comme ça que je les vois. Alors, au niveau, en périphérie, vous avez les gestes du métier. Alors, j'avais dit micro, mais le terme micro, méso, macro ne convient pas bien. Je pense que c'est plutôt, on va essayer d'aller vers le centre. Alors, au niveau des gestes du métier, bon, évidemment, c'est tout le travail qu'a développé Dominique Bucheton. Je vais lui laisser le soin de le présenter, évidemment. Mais je voulais simplement mentionner, c'est important, des gestes de tissage, d'étayage, de gestion de l'atmosphère, de gestion de l'espace et du temps. Et ce que je voudrais simplement souligner, c'est que c'est probablement pas des gestes qui jouent directement sur l'objet d'enseignement-apprentissage, mais c'est des gestes qui jouent sur les conditions pour que l'enseignement-apprentissage soit réellement effectif. Alors, je laisserai à l'auteur le soin de, évidemment, de développer ça. Je voudrais m'arrêter un peu plus longtemps sur le deuxième niveau d'organisation. Donc, j'essaie de prendre une hypothèse où on se rapproche du centre. Et là, on a quelque chose à voir avec quel est l'objet. Alors, en ergonomie, en psychologie ergonomique, quand on veut faire une analyse de l'activité, on commence toujours par se poser deux questions. Quel est l'objet de l'activité et en quoi est-il transformé ? Alors, c'est des questions qui paraissent un peu banales, mais on s'aperçoit que, d'abord, identifier exactement quel est l'objet, c'est pas toujours simple. Quel est l'objet exact de l'activité, c'est un vrai travail d'analyse. Et puis, comment il est transformé, c'est aussi, évidemment, l'essentiel de l'analyse. Or, par rapport à l'activité d'un enseignant, on peut s'interroger en se demandant, mais quel est l'objet ? Alors, j'ai trouvé, chez les auteurs, j'ai envie de dire, deux réponses. D'abord, une première réponse qui est massive, l'objet de l'activité, c'est le savoir. Alors, avec tout de suite quand même une nuance, qu'on trouve d'ailleurs chez Guy Brousseau, la différence entre savoir et connaissance. Savoir, c'est un ensemble d'énoncés qui a une dimension objective, qui s'inscrit dans un corps de savoir, non contradictoire, etc. Connaissance, c'est plutôt la dimension subjective, c'est la manière dont on s'approprie, ou on s'approprie pas bien, ou pas du tout, certains savoirs. Alors, c'est vrai qu'on peut jouer, il y a des très, très belles analyses qui permettent de montrer comment l'objet de l'enseignement-apprentissage, j'accole les deux termes dans ces cas-là, l'objet, ce serait le savoir, sous sa forme à la fois connaissance et savoir, c'est-à-dire comment le savoir est assimilé par un sujet et devient connaissance, ou, comme l'a bien montré Brousseau, comment des connaissances sont confrontées et à un moment donné deviennent, accèdent par conceptualisation à la dimension de savoir. Et puis, j'ai trouvé chez Bernard Chevely une critique de cet objet, savoir, et lui il dit, l'objet de l'enseignement-apprentissage, c'est ce qu'il appelle l'objet à enseigner. Alors, ça reste un peu vague, je crois que ça vaut la peine de regarder les analyses qu'il en fait, parce que du coup, on voit bien que dans chaque activité enseignante, ça porte sur un objet, et cet objet, il en a un sens partagé. C'est ça, je crois, que veut dire Chevely. Il est à la fois partagé, il est transmis par l'enseignant, Et en même temps, il va être... Alors, moi, j'utilise une formule que je dois à Pierre Rabardel. Je dis que le savoir tel qu'il est transmis doit être l'objet d'une genèse instrumentale. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est le... Bon, alors, quelques mots sur ce que Pierre Rabardel, psychologue, appelle genèse instrumentale. Il dit que les outils que nous utilisons, que ce soit des outils matériels ou des outils cognitifs, un manuel, une courbe, un schéma, une abaque, etc., c'est des outils. Les outils, la plupart du temps, ils se présentent sous deux formes. Sous la forme d'un artefact, ça a été conçu par quelqu'un, mais quand on essaie de l'utiliser, c'est un objet qui nous est étranger. Et la deuxième forme, c'est que grâce à l'usage qu'on va apprendre par rapport à cet outil, on va faire de cet outil en quelque sorte le prolongement de son corps propre. On va le transformer en instrument. Autrement dit, un outil a deux statuts. Un statut, je dirais, d'artefact, quelque chose qui m'est étranger, et un statut d'instrument, c'est-à-dire quelque chose que... j'ai assimilé, bon, par exemple, un ordinateur au début, c'est un artefact, enfin, c'est un truc. Et puis peu à peu, on va l'apprivoiser, on va aller jusqu'à un certain point. C'est ce qu'il appelle une genèse instrumentale. Eh bien, très probablement, un des gros problèmes de l'analyse de l'activité, pour moi, c'est un des organisateurs importants de l'enseignement-apprentissage, c'est la transformation d'un savoir artefact en savoir instrument, c'est-à-dire un savoir qu'on a assimilé à soi-même et dont on va pouvoir se servir pour résoudre certains problèmes. Bon. Je continue. Il n'y a pas simplement l'objet de l'activité dans ce deuxième niveau. Il y a également les opérations qu'on va effectuer sur l'objet. Et là, ce qui m'a frappé, alors, c'est pas du tout de moi, hein. Moi, j'ai pas travaillé dans ce domaine, mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il me semble que, mis à part quelques disputes de chapelle, il y a quand même une assez grande convergence quand on voit la manière dont les gens analysent ce genre de choses. En particulier, j'ai repris la formule de Sansevi, définir, dévoluer, réguler, institutionnaliser...
C'était Brousseau.
C'est du Brousseau. Mais c'est du Brousseau...
Passer du niveau de l'élève au niveau de l'adulte.
Des opérations faites par un enseignement.
Exactement.
Et en particulier, ce qu'ils disent, et ça on voit bien, vous voyez, ce que j'appelais le rééquilibrage qu'on voit apparaître aujourd'hui, alors de façon très modérée chez Sansevi, de façon un peu plus brutalisée chez Chenevely, mais on voit bien comment il y a eu un rééquilibrage, en particulier pour en se centrant beaucoup plus sur l'enseignant. Et là, au fond, les opérations que fait un enseignant, c'est il faut qu'il définisse l'objet et la tâche, il faut qu'il dévolue le problème. Je vais pas développer ça. Demander à un élève de Brousseau, il vous le fera très très bien. Il va falloir réguler ce travail d'apprentissage, et il va falloir institutionnaliser. C'est-à-dire, à un moment donné, donner une certaine généralité à l'apprentissage ponctuel et singulier qui a été fait. Chenevely, là, y a ajouté, moi je trouve ça intéressant, construire la mémoire didactique. C'est-à-dire que c'est pas simplement ce qui s'est fait dans une classe d'une heure ou trois quarts d'heure, etc., mais c'est quand même une certaine continuité, et là on trouverait une des préoccupations de Dominique Bucheton. Hein, j'ajoute sur ce point-là. Alors c'est une esquisse. Hein, c'est une esquisse avec des éléments disparates où j'ai essayé quand même de respecter un petit peu la complexité de l'organisation de l'activité, parce que je pense que c'est quand même très complexe. J'ai trouvé un concept organisateur. Mm-hmm. Alors c'est un peu ma marotte, hein, chercher des concepts organisateurs. Il m'a semblé que le concept organisateur qui était probablement central dans cette activité enseignement-apprentissage, c'est le concept de secondarisation. Ça veut dire, bon, j'ai emprunté à Guagou et Bautier, ce qui veut dire que, au fond, un enseignant, il fonctionne toujours à deux niveaux. Il y a un niveau de la tâche, il donne des tâches à faire. C'est pas la tâche ergonomique, là, c'est la tâche scolaire. Et le critère, à ce moment-là, de réussite, c'est la réussite de la tâche. Mais rien ne nous dit qu'une tâche réussie a produit de l'apprentissage, a produit de la conceptualisation. Et c'est la raison pour laquelle, en permanence, les enseignants vont être un peu sur ce double registre. Un registre, bon, est-ce que la tâche a été exécutée, comment elle a été faite, etc. Mais on veut essayer d'aller plus loin et se dire, mais qu'est-ce qui a été appris véritablement? Qu'est-ce qui a été conceptualisé à l'occasion de l'effectuation de cette tâche? Un de mes doctorants qui avait travaillé sur l'apprentissage de la grammaire à l'école primaire, à l'école élémentaire, justement a essayé de pister chez des enseignants qu'il avait observés ces moments qu'il appelle des moments de glissement où on essaie de passer d'un niveau à un autre.
Mmh. Le problème,
avec
c'est plus
ou moins de bonheur.
Le problème, c'est pas simplement de souligner en rouge les verbes et en bleu les noms, mais de savoir derrière les gamins qui sont sur des problèmes de couleurs, c'est quelle catégorie on a compris.
Est-ce que,
derrière,
par exemple, le concept de sujet a été un tout petit peu appréhendé? Ouais. Alors, il a montré qu'il y avait, bon, si vous voulez, il y avait des glissements qui étaient réussis, et puis quelquefois, bon, ben, l'enseignant, le glissement, ben, c'est lui qui le fait, et du coup, il n'a aucun critère pour savoir s'il y a eu véritablement apprentissage.
Cinq minutes de grâce.
Alors, je voudrais quand même parler du troisième niveau d'organisation parce que ça, pour moi, ça me paraît majeur. Et là, je crois que c'est vraiment Isabelle Vinatier qui met l'accent là-dessus, à savoir que l'interactivité entre un enseignant et des élèves implique derrière des postures, c'est-à-dire une dimension de l'intersubjectivité. Alors Isabelle a développé, Isabelle va le faire beaucoup mieux que moi, donc je vais simplement le mentionner, mais je crois que c'est très important. En utilisant les concepts de phase, de territoire, avec des auteurs que tu aimes bien et que tu as beaucoup utilisé pour ça. Je voudrais dire que, autant que je sache, tu as commencé avec ta thèse en observant les postures prises dans une maison d'édition entre des gens qui accueillaient des réclamations au téléphone et des clients. Et on voit bien que il n'y a pas que simplement des organisateurs de l'activité liés à la situation, il y a également des organisateurs de l'activité qui sont liés à la posture du sujet. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très important. L'interactivité, c'est pas simplement des échanges, c'est des positions existentielles qui renvoient à une certaine construction de l'identité en acte. Bon, je vais pas aller plus loin parce que je veux quand même pas dire les choses à sa place. Elle est là, donc elle pourra le faire. Mais je voudrais dire pour moi que c'est un élargissement considérable de la notion d'organisateur. Parce que ce que j'ai raconté jusque-là, c'est surtout des organisateurs référés à la situation. Donc à la situation, à l'objet. Hein. Quel est l'objet de l'activité, en quoi est-il transformé, etc. On a bien une démarche, et je ne l'abandonne pas, hein, bien entendu. Mais je crois qu'il y a un deuxième type d'organisateur, qui est des organisateurs qui sont référés au sujet lui-même. On pourrait dire qu'il y a des organisateurs bon, plutôt objectifs, et des organisateurs plutôt subjectifs, ou des invariants liés à la situation et, comme dit Isabelle, des invariants du sujet. Et je crois que on ne peut pas, il me semble, même si c'est difficile à analyser ça, on ne peut pas comprendre l'organisation de l'activité d'un enseignant si on n'a pas en tête cette dimension d'intersubjectivité. C'est un troisième niveau d'organisation qui est probablement le plus central, et j'ai envie de dire, mais ça je serais bien incapable de le démontrer, probablement peut-être le plus crucial. Mais bon, ça... Je termine. Je termine en quelques mots. Bon, j'avais prévu un peu de... bon, je suis un peu bavard.
Mais on va y revenir dans la discussion. Voilà. Hein. Donc,
Quelques conséquences pour la formation des enseignants. J'aurais simplement mentionné deux. C'est que la première remarque que je voulais faire, c'est que nous avons tous été des professionnels avant d'être des formateurs. Hein. Les formateurs d'enseignants ont d'abord été des enseignants professionnels. Ça veut dire qu'ils se sont construits un modèle opératif, ce que j'appelle dans mon langage un modèle opératif.
C'est pas toujours vrai, hein.
C'est-à-dire une organisation de l'activité.
Je veux dire, par exemple, tout le corps des professeurs d'école normale, qui étaient des professeurs du second degré et qui ont été nommés en école normale pour former des gens du premier degré, étaient des gens qui étaient dénués de toute compétence professionnelle sur l'enseignement du premier degré. C'est un très grand exemple d'analyse intéressant.
Voilà, absolument, tu as raison de le signaler. Donc, je vais mettre un peu une nuance, un bémol à mon propos. Effectivement. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que quand on forme, j'étais formateur de formateurs, et je crois que il est difficile d'échapper au modèle opératif qu'on va essayer de transmettre.
Ça, c'est vrai.
Ou d'induire chez autrui. Or, très souvent, c'est un modèle opératif qui est tiré de l'expérience et parfois de très longues années d'expérience derrière soi. Et on oublie parfois qu'on a en face de soi des débutants. Et que ce qui est pertinent pour quelqu'un qui a des années d'expérience, c'est pas forcément pertinent pour un débutant. C'est ça que je voulais dire. Oui. C'est-à-dire que il y a un problème dans la formation d'entrée progressive dans la complexité. J'ai aujourd'hui un de mes doctorants qui travaille avec des élèves ingénieurs. Et moi, j'avais travaillé, c'était des trucs de plasturgie. On a fait des simulateurs. Et lui, il a pris des débutants. Il a observé. Alors, j'avais fait des analyses de stratégies différentes. Et on s'aperçoit que les débutants, le formateur, parce que la plupart du temps, les débutants, ils sont en présence d'un formateur qui va les orienter, les guider, les manager, faire de la médiation et de l'étayage. Et le formateur va généralement avoir tendance à pousser la stratégie que lui-même utilise, le modèle opératif que lui-même utilise, sans parfois se rendre compte que ce modèle opératif est hors de portée des débutants. Il y a probablement un ordre d'acquisition. Si l'activité des enseignants est, comme je le crois, tellement complexe, ça veut dire qu'un débutant, il ne peut pas tout assimiler en même temps. Et qu'il va le faire avec un certain ordre et une certaine progression. Et que si on ne respecte pas cette progression, on peut avoir des effets contre-productifs. Contre-productif très important. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et j'admets tout à fait ta remarque, parce qu'effectivement... je terminerai là-dessus, moi. C'est que parmi toutes les activités d'un enseignant, des activités de mise en scène, de médiation, de régulation, d'utilisation d'instruments, il y en a une qui me paraît centrale. Bon, je dis aussi bien chez les formateurs en formation professionnelle que chez les enseignants, c'est la capacité à analyser l'activité des gens qui sont en face de soi. Alors, si vous voulez, l'analyse du travail, moi je dis pour mon compte personnel, je l'ai fait en trois temps. Dans un premier temps, j'ai considéré l'analyse du travail comme un préalable à la construction d'une formation. Il fallait faire l'analyse du travail avant. C'était un travail de chercheur. Ensuite, je me suis rendu compte que dans l'apprentissage, quand les formateurs étaient capables d'analyser l'activité d'apprentissage qui avait été celle des apprenants, c'était extrêmement important. Je continue à le penser. Et puis, il y a eu un troisième moment. Et pour moi, maintenant, aujourd'hui, c'est le moment décisif. C'est quand on peut permettre à des gens en apprentissage de faire l'analyse de leur propre activité après coup. C'est ce que j'ai appelé l'analyse réflexive rétrospective. Et là, j'ai inventé un outil, un instrument autour du concept d'intrigue, c'est-à-dire comment arriver comment donner les instruments, les outils pour permettre à quelqu'un qui est en apprentissage et après coup de reconstituer ce qui s'est passé dans des moments critiques. Alors attention, il ne s'agit pas de tout analyser, mais de prendre des moments critiques et de les reconstituer. Et là, j'utilise le terme d'intrigue, tiré de Paul Ricoeur, que j'ai adapté à ma sauce. Il y a une manière de faire. Et c'est, je voulais terminer là-dessus. C'est vraiment quelque chose de très pratique et qui, à mon avis, fonctionne bien. On prend un incident critique, on le choisit judicieusement, on le découpe en épisodes. Alors,
déjà, il ne donne pas la clé de comment on sait qu'il est judicieusement choisi. Ça, c'est le problème. Mais mettons qu'on l'ait trouvé.
Alors, tu vois, je me suis aperçu dans la pratique, parce que ça, c'est, j'ai vu faire des apprenants avant de le théoriser. Mm-hmm. Et je me suis rendu compte que dans la pratique, quand on fait des entretiens d'autoconfrontation après coup, on disait, à votre avis, quels ont été les moments importants? Et là, on ne se trompe pas. C'est-à-dire qu'il y a un grand accord entre l'apprenant, le formateur et le chercheur. Mm-hmm. Autrement dit, ce n'est pas la peine de chercher midi à 14h. Tout le monde est d'accord pour savoir qu'il y a eu des moments critiques et c'est ceux-là qui vaut la peine d'analyser. J'ajouterais qu'un moment critique, ce n'est pas forcément un échec. Mm-hmm. C'est un moment difficile. Le découpage en épisodes, c'est pareil. Je me suis rendu compte que ça posait pas trop de problèmes. Les gens savent découper les épisodes. Par contre, c'est après que ça pose des problèmes. Parce que il faut quand même prendre des catégories. Alors moi, j'avais emprunté à Ricoeur, relation de causalité, relation de finalité, événement fortuit. Mais ça, il faut pas s'arrêter à ça. Je dirais, il faut que les formateurs arrivent à catégoriser eux-mêmes, en particulier, par exemple, quand c'est des échanges, quand c'est une coactivité, de voir un peu quelles sont les catégories pertinentes. Et ça, faut pas demander aux apprenants de le faire. Ça, c'est le boulot du formateur, à mon avis. Ensuite, quand on leur a fourni la grille, on peut demander aux stagiaires d'identifier les enchaînements. Et on s'aperçoit à ce moment-là que ils fonctionnent. Alors, à l'envers, parce qu'on connaît la fin d'un incident critique, on sait comment ça s'est terminé, et du coup on va essayer de remonter, on va retrouver des enchaînements. Alors un historien qui s'appelle Paul Venn a trouvé une très jolie formule, il appelle ça la rétrodiction. On ne peut pas prédire l'avenir, mais on peut rétrodire le passé, parce qu'on connaît la fin. Et du coup, cet instrument qui consiste à reconstituer l'intrigue consiste au fond à retrouver l'enchaînement qui a fait qu'on allait arriver là où on allait arriver, et on va remonter jusqu'à la cause qui a produit ce moment d'incident critique. Il me semble que ça, c'est intéressant, parce que parmi tous les organisateurs de l'activité enseignante, les niveaux que j'essayais d'indiquer, le niveau centré sur l'objet et le niveau centré sur la posture du sujet, l'analyse réflexive rétrospective permet de combiner, moi, ce que j'appelle du méta et de l'ipsé. Excusez-moi. Puis en plus, je mélange du grec et du latin, c'est pas bien.
C'est une horreur. Ça, c'est impardonnable.
C'est impardonnable. Bon,
alors, il faut nous dire ce que ça veut dire, parce qu'en français...
Méta, c'est de la métacognition. C'est-à-dire que en reconstituant les enchaînements d'un événement, on construit de la connaissance. Et d'ailleurs, à ce moment-là, c'est là que l'institutionnalisation par l'enseignant ou par le formateur trouve toute sa pertinence. Donc ça, c'est le méta. L'ipsé, alors ça, c'est Ricoeur.
C'est Ricoeur.
Quand Ricoeur a analysé l'identité, il dit qu'il y a deux types d'identité. Il y a l'identité idem et l'identité ipsé. Idem, ça veut dire que ce que j'ai vécu, il en reste une trace. Moi, je appelle ça l'expérience idem. J'ai vécu des choses, il y en a une trace. L'expérience ipsé, c'est le fait de s'attribuer à soi-même ce qu'on a vécu, c'est-à-dire de lui donner du sens pour soi. Et ça, je crois que c'est une manière, avec ce petit instrument de l'intrigue, d'arriver à combiner les deux dimensions d'organisation de l'activité, la dimension centrée sur l'objet, l'objet à apprendre, et la dimension centrée sur les postures du sujet. Voilà, je m'arrête là.